Chapitre 2. Tout le monde avait passé. Il ne restait plus sous la marquise du quai que deux ou trois portefaix groupés dans un coin, des employés qui couraient çà et là en proie à une mystérieuse agitation, et, près de la porte de la salle des bagages, un jeune homme et une jeune fille qui tournaient le dos à Zoé. La jeune personne était encapuchonnée d'un voile gris, elle portait un manteau de voyage à ramages immenses, gris sur gris, dont les manches démesurées et flottantes se soulevaient à chaque courant d'air comme les ailes de quelque gigantesque oiseau. Ce manteau seul aurait suffi à intimider Zoé, mais il y avait encore, dans les mouvements de la jeune personne, dont elle ne voyait pas le visage, une vivacité tourbillonnante qui faisait tout flotter autour d'elle, les bouts de son voile, les rubans du parasol, les franges du châle roulées dans une courroie. Subitement, cette remuante voyageuse fit une volte et aperçut Zoé derrière elle. « Ma cousine Adrienne !» dit Zoé, sentant qu'elle devait parler la première, mais devenant toute froide et toute pâle d'émotion. « Elle-même !» s'écria la jeune personne. « Vous êtes Zoé ? Laissez-moi vous regarder !» Elle leva vivement son voile, enveloppa d'un coup d'œil cette petite cousine inconnue, puis, pour cacher peut-être un sourire amusé qui passa sur ses lèvres, elle se pencha, prit à deux mains la figure de Zoé et lui mit un baiser tout rond sur la bouche, comme on ferait à un bébé. « Ce jeune homme correct est mon frère !» poursuivit-elle en désignant son compagnon qui, le coude arrondi, soulevait son chapeau de feutre gris à 5 pouces de sa tête et, dans cette irréprochable attitude, attendait patiemment que sa cousine le regardât. Zoé lui fit une petite révérence sans oser lever les yeux. « J'espère que vous avez fait un bon voyage, » dit-elle, s'efforçant d'affermir sa voix. Ce cousin et cette cousine étaient bien plus terribles encore qu'elles ne se l'étaient représentées. Leur aisance de manière augmentait sa sauvagerie. Entre chaque phrase qu'ils échangeaient, il lui semblait qu'une éternité s'écoulait. « Le fils de notre fermier prendra vos bagages, » dit-elle après une de ses éternités, tandis que son cœur battant à toute volée lui remplissait les oreilles d'un bruit confus. « Ce grand garçon-là, » fit Adrienne, « mais il est très bien le fils de votre fermier. Jules, donne-lui notre billet de bagages. » « J'irai avec lui si vous me permettez de vous quitter un instant, » dit Jules. Zoé fit un signe à Samuel qui était resté un peu à l'écart. Les deux jeunes gens s'éloignèrent ensemble. « Maintenant, petit minois, comment se rend-on chez vous ?» fit Adrienne en glissant sa main sous le bras de Zoé. « En voiture. Notre char à banc est là, au bout de l'esplanade. »« Parfaitement. Vous êtes un peu timide, n'est-ce pas? J'ai vu cela. Vous avez tort. Mon frère et moi, nous n'en valons pas les frais. Cela vous fera rire quand vous nous connaîtrez mieux. » « Je propose une chose, c'est que nous allions nous installer sur votre char à banc et que nous fassions connaissance le plus vite possible. » Sans attendre de réponse, elle entraîna Zoé dans la salle d'attente, traversa le hall et descendit le perron en courant, ses grandes manches battant des ailes derrière elle. « C'est là votre équipage? Ce cheval brun, là-bas? Serais-je heureuse, moi, d'avoir un équipage ?» « Il n'est pas à nous, » dit Zoé, « il est au fermier, mais j'aurais cru... » Elle s'interrompit et devint toute rouge. « Quoi ? Dites, parlez, petite candeur, je vois ce que c'est. Non, ma chère, vous vous trompez, nous sommes pauvres comme des rats. Ce bon oncle Clovis ne vous l'a donc pas dit ? Que vous a-t-il dit de nous ?» Il m'a dit, » fit Zoé en relevant la tête d'un petit mouvement assez fier, « que votre mère est une personne de grand mérite et votre père un excellent professeur. C'est ainsi que mon cousin parle de sa famille. »« Parfaitement exact, mais il n'en est pas moins exact que nous sommes pauvres comme des rats, c'est un fait acquis à l'histoire. Jules a attrapé des bourses, c'est comme ça qu'il a fait des études d'ingénieur. Ma sœur aînée donne des leçons de piano, moi je m'occupe du ménage avec maman, je couds, je taille, je fais tous les habits de la famille. » « Ah, j'ai beaucoup de mérite aussi, je le dirai à mon oncle. » Elle partit d'un gai éclat de rire, puis avisant sous le char l'escabeau renversé, elle se baissa, le remit sur ses pieds et effectua, assez lestement pour une citadine, l'ascension du véhicule rustique. Délicieux ! S'écria-t-elle aussitôt qu'elle fut installée. Mais il est à ressort, ce char. Ce n'est pas un jeu, moi qui espérais que nous allions être secoués comme un panier à salade. Vous ne dites rien, petite cousine, ce n'est pas encore passé, cet accès. Zoé, par politesse autant que par timidité, laissait à sa compagne le plus de place possible et se faisait toute petite à l'autre coin du banc. Adrienne l'entoura vivement de son bras pour l'attirer plus près d'elle. Voyons, vous ne me direz pas que je vous fais peur? Regardez-moi une bonne fois. Je parie que vous ne me reconnaîtriez pas si vous me rencontriez demain dans la rue. Zoé leva la tête en souriant malgré elle. Elle vit deux yeux clairs des rieurs, pleins d'un rayon de soleil sous la soie pâle de leurs longs cils, un visage irrégulier et piquant, un teint fade de blonde trop blonde et une foison de cheveux légers, mousseux, frisantes et s'envolant de partout. Le franc regard de ses yeux gais coula tout pétillant dans les yeux sérieux de Zoé, et le charme agit, et Zoé fut conquise. Elle se rapprocha de sa cousine, mit doucement sa main dans la sienne. Son cœur battait de nouveau, mais c'était de joie. Elle se disait « J'ai une amie, j'ai une amie !» Tout de suite, avec ferveur, elle se mit à admirer Adrienne, ses jolis cheveux, son manteau à la mode, ses longs gants et tout ce qu'elle disait avec son petit accent rapide et ses vifs mouvements de tête. « Voilà mon système à moi !» poursuivit Adrienne en donnant à sa main de petites secousses affectueuses. « Je sais ce que c'est que la timidité, j'en ai beaucoup souffert autrefois. Alors, quand je rencontre une personne timide, je lui dis tout simplement « Vous êtes timide à ce que je vois ?» Elle me répond « J'en conviens. Au moins, la situation est claire. Tandis que, si on a l'air de ne pas s'en apercevoir, ces malheureux font des efforts désespérés pour le cacher, et ils souffrent, ils souffrent. Non, mon système vaut beaucoup mieux. J'ai fait des cures. » « Vous ferez la mienne, » dit Zoé qui s'épanouissait de minute en minute. « Je l'espère bien. Quant à Jules, c'est différent. Il ne vous mettra pas à l'aise parce qu'il ne s'y met jamais lui-même. Il est toujours correct, il vous intimidera horriblement. Mais écoutez un petit secret. Il a raté ses premiers examens. Oh, il les a très bien passés ensuite, mais enfin, il a raté les premiers. » Quand vous sentirez qu'il commence à agir sur vous comme une tête de méduse, dites-vous « Voilà pourtant un jeune homme qui a manqué ses examens. Cela vous aidera à réagir, vous verrez. Je n'ai que 19 ans, mais je suis déjà d'une jolie force en psychologie. Quel âge avez-vous, petit minois ?»«
18 ans. »«
18 ans ? Grandissez-vous encore ?»«
Je le crois. On m'a rallongé toutes mes robes ce dernier printemps. »
« Voici Samuel et votre frère, » dit Zoé, qui eut un petit soubresaut. « Quel dommage !»«
Oh, nous pourrons causer tout de même. Nous avons des montagnes de choses à nous dire. Jules, n'aie pas l'indiscrétion de prêter l'oreille, là, sur ton banc de devant. Ce que nous avons à nous dire est purement féminin. »«
Cela augmente mon désir de l'entendre, » répondit-il. Adrienne haussa légèrement les épaules.
« La réponse obligatoire. Tu n'as aucun imprévu, mon pauvre Jules. Tu es aussi banal qu'un cartonnage. »
Ce mot fit rire Zoé, et sa main, qu'elle avait glissée sous la grande manche du manteau gris, pressa le bras d'Adrienne. La petite mimique des amitiés de jeune fille lui venait instinctivement, en même temps qu'un peu d'assurance et une toute petite pointe de raillerie sous l'aile de ce grand manteau protecteur. Elle regardait son cousin à travers ses cils baissés. Jules Maurier semblait petit à côté de Samuel, mais il était en réalité de taille moyenne. Il avait une figure régulière où rien ne se dérangeait, une jolie moustache châtain clair et cette gravité parfaitement imperturbable qui provient d'un manque absolu d'humour. Zoé, qui avait des intuitions rapides, devina tout à coup que ce cousin correct ne se moquerait jamais d'elle, mais que ce serait elle, au contraire, qui trouverait sous peu le courage de se railler tout doucement de lui. Cette découverte était rassurante autant qu'inattendue et pleine d'une délicieuse saveur de nouveauté.
« Je n'aurais pas du tout peur de lui, même s'il n'avait pas raté ses examens !» murmura Zoé à l'oreille d'Adrienne. Le trajet fut très agréable. On causa, on admira le pays, on tira de dessous le banc le petit panier que Flore avait garni de délicieuses tartelettes aux groseilles, et l'on fit collation en riant et en se taquinant à qui mieux mieux. Samuel fut le plus gai de tous. Le premier moment de réserve passé, il donna si bien la réplique à Adrienne que Zoé se sentit fière de lui et le trouva bien plus amusant que son cousin l'ingénieur, tout en regrettant qu'il eût un si mauvais caractère. « Car il a mauvais caractère, se disait-elle, il est d'une susceptibilité, tout ce que je lui dis le vexe. Voilà Adrienne qui lui demande de conduire. Il ne se fâche pas contre elle comme il s'est fâché contre moi quand je lui demandais tout juste la même chose. Mon cousin Jules est bien différent. Jamais nous ne nous querellerons, j'en suis certaine. » Au dernier tournant du chemin, Zoé guetta l'éclaircie entre les grands frênes, puis se tournant vivement vers sa cousine. « Voilà la maison grise, » dit-elle. Ensuite, elle ajouta plus timidement, en appuyant sa joue d'une façon caressante contre l'épaule d'Adrienne, « Soyez les bienvenus !»« Merci, ma cousine, » dit Jules qui souleva son chapeau. Adrienne se dressa à demi. « Mais cela vous a un air de château, » s'écria-t-elle, « avec cette grande façade en pierre grise, ces deux ailes et cet immense toit. Quel toit, quel grenier! J'espère que vous avez bien un revenant ou deux sous ce grand toit. Non? Après tout, j'aime autant cela. Les revenants, c'est devenu vieux jeu. » Zoé fit-elle à demi-voix, de ces deux vieux messieurs assis près de la porte, lequel est mon oncle Clovis? Celui qui se lève pour venir à notre rencontre. L'autre est mon arrière-grand-père. N'a-t-il pas 100 ans? Oh, Zoé, je n'oserais jamais parler à quelqu'un d'aussi antique. Je sens que je vais me trouver mal. Bonjour, ma nièce, cria M. Clovis, sa voix cassée mais cordiale, en ouvrant la grille toute grande et se rangeant bien vite contre le mur pour laisser passer l'équipage. Jusqu'à la porte, Samuel, jusqu'à la porte. Flore en dira ce qu'elle voudra. Vous avez fait un bon voyage, ma nièce. Excellent, mon oncle. J'étais sous la protection de mon frère que voilà, maman ne m'ayant pas permis de voyager seule. Notre jeune ingénieur, fit M. Clovis avec une nuance de respect dans la voix. Nous serons tous heureux de faire sa connaissance. Comment vous portez-vous, mon neveu? Descendez, jeunes gens, descendez bien vite, qu'on vous présente au reste de la maisonnée. Le grand-père s'était levé à son tour et se tenait immobile près du seuil, très droit, ne perdant pas un pouce de sa haute taille. Sa main d'ivoire était à demi enfouie dans sa longue barbe, aussi blanche que de la laine, tombant d'un visage desséché et creusé, impérieux encore dans sa décrépitude. Il avait délibéré un moment avec lui-même s'il recevait assis ou debout les jeunes visiteurs. S'il s'était levé, c'était afin que la première impression qu'ils auraient de lui ne fût pas celle d'un vieillard caduc affaissé sur une chaise. « Mes petits neveux, Brutus, » dit M. Clovis en faisant avancer Adrienne, qui semblait fort disposée, par extraordinaire, à rester à l'arrière-plan. « Je suis heureux de vous voir à la maison grise, bien que vous nous ayez donné peu de temps pour nous y préparer, » fit lentement le grand-père, qui fixait ses yeux ternis, tantôt sur Jules, tantôt sur Adrienne, tout en continuant à faire glisser ses doigts dans sa barbe de patriarche. « Puisque vous voilà, nous allons tout de suite éclaircir un point. Lequel de vous deux a la responsabilité de ce télégramme ?» Le frère et la sœur se regardèrent, étonnés. « Grand ciel, nous avons fait une bévue, nous voilà mal notés !» murmura Adrienne en reculant un peu derrière son frère. « Ils sont là à se regarder !» exclama le vieillard avec impatience. De mon temps, les jeunes gens répondaient quand on leur adressait une question. « Faites-les donc parler, Clovis. Si c'était mes neveux à moi, je les ferais bien parler. » Adrienne jeta un coup d'œil à Jules, mais elle le vit serrer les lèvres d'une certaine manière qu'elle connaissait. Il trouvait cet interrogatoire peu correct et se retirait immédiatement, derrière son retranchement ordinaire, la passivité du silence. Adrienne s'avança, un léger dépit lui colorait les joues. « Je ne vous cacherai aucune circonstance du délit, monsieur. C'est Jules qui a porté le télégramme au bureau, mais la faute est la mienne. J'avais plusieurs petites besognes à terminer et comme je ne pouvais être sûre de les finir à temps, je dis à Jules qu'au lieu d'écrire, nous télégraphierions au moment de prendre le train. Je regrette que ce télégramme vous ait déplu.
« Du tout, du tout !» fit le grand-père en agitant les mains.
« N'en parlons plus. Clovis, tu vois que j'avais raison. » Il s'assit et, pendant quelques minutes, continua à hocher la tête d'un air de triomphe. Depuis le mot de télégramme, le pauvre M. Clovis avait été fort mal à l'aise, mais son intervention n'aurait pu qu'aggraver les choses. Il se contenta de prodiguer à Adrienne des signes de tête encourageants, puis, quand le dernier mot fut dit, il adressa à Zoé un geste qui la priait d'emmener sa cousine au plus vite. « Venez, Adrienne, dit-elle, je vous montrerai votre chambre. » À peine l'eut-elle entraînée dans le long corridor, loin des regards, qu'elle s'arrêta et lui jeta ses bras autour du cou. « Oh, Adrienne, quel accueil! J'en ai tant de chagrin !» s'écria-t-elle. « Mais vous l'oublierez, n'est-ce pas? Il ne faut pas prendre garde. Mon pauvre grand-papa est très heureux de votre visite, au fond. Seulement, il a eu avec mon cousin Clovis une petite discussion au sujet de ce télégramme. Tenez, voici ma tante Célanie qui vous dira aussi combien nous sommes heureux de vous recevoir. » Mademoiselle Célanie s'approchait de son pas silencieux d'ombre. Elle leva sur Adrienne des yeux vaguement tristes, lui donna un faible baiser et retint quelques instants sa main dans les siennes en lui demandant douloureusement si elle avait fait un bon voyage, si le chemin de fer ne lui donnait pas la migraine. Puis, ayant appris qu'Adrienne était accompagnée d'un frère, elle glissa lentement vers la porte pour verser aussi sur le jeune homme la chaleur de sa bienvenue. Les deux jeunes filles montèrent l'escalier sans mot dire. Arrivée sur le palier, Adrienne se tourna impétueusement vers sa cousine. « Voyons, soyez franche, qu'y a-t-il? Nous tombons mal? Vous avez un mort dans la maison ?»« Un mort ?» cria Zoé interdite. « Je ne sais qu'imaginer d'autre. D'abord, votre grand-père qui nous reproche de vous avoir pris par surprise, et puis cette dame au funèbre visage. « Oh, ma tante est toujours ainsi. »« Toujours ainsi ? Je vois ce que c'est. Elle a eu un chagrin d'amour !» s'écria Adrienne. Zoé partit d'un éclat de rire, et ouvrant toute grande une porte à sa gauche, elle poussa Adrienne dans une chambre immense où le soleil salua leur gaieté revenue. C'était la chambre rouge, l'orgueil de Flore, avec ses rideaux en damas cramoisi, son grand tapis d'Orient sur le parquet irréprochable, ses chaises en pierre peintes en gris clair et, sur les parois, dans un ordre symétrique, de belles vieilles gravures représentant les batailles de l'empereur. Un grand vase était plein de pivoines rouges et panachées que Zoé avait mises là parce qu'elle s'assortissait à la couleur des rideaux. Rien ne manquait à la toilette drapée de basin blanc. Des corbillons tressés en fil de bambou, une pelote de satin rouge recouverte d'une merveilleuse guipure rousse, œuvre de Mademoiselle Célanie, comme le damier tracé dessus par les épingles et le traditionnel verre d'eau en cristal ancien, délicatement taillé et doré, le carafon, le sucrier, le plateau transparent, se reflétaient dans la glace inclinée à bordure grise. « Votre chambre vous plaira-t-elle ? » demanda Zoé, allant et venant, ouvrant des armoires qui auraient fait à la ville des cabinets de toilette très raisonnables et des tiroirs où l'on eût fort bien dormi. « Je vous confierai une chose, dit Adrienne, c'est que de ma vie, je n'ai dormi seule dans une chambre. Nous sommes 8 à la maison et nous nous casons dans 5 pièces, d'où il faut encore ôter le salon, qui ne sert à rien qu'à affirmer notre rang social. Quelle jolie pelote! Ai-je le temps de me recoiffer avant le dîner? Ce sera fait en un tour de main. » Prestement, elle leva les bras, enleva 3 épingles, puis elle secoua la tête et une cascade blonde, vaporeuse, coula jusqu'à sa ceinture. Zoé poussa un petit soupir d'admiration. « Quels jolis cheveux » exclama-t-elle. « Ils ne sont pas mal dans leur genre, » dit Adrienne en s'envoyant un petit sourire dans la glace, tandis qu'à deux mains, elle relevait sur le sommet de sa tête la lourde torsade, couleur de cendre argentée. « Pourtant, je les voudrais un peu moins incolores à cause de mon teint. C'est vous qui avez un joli teint, petite cousine. »« Vous trouvez ?» murmura Zoé, dont le cœur battit de plaisir. « Si je le trouve, une églantine. Comment faites-vous à la campagne pour n'avoir pas de rousseur? Ce que j'ai lutté contre les rousseurs? Figurez-vous qu'à 15 ans, j'avais de vraies taches de sang, larges comme cela. Avec mon teint clair de lune, vous voyez l'effet d'ici. »
Et comment vous en êtes-vous débarrassé ? Demanda Zoé, qui trouvait la conversation palpitante d'intérêt.
C'était si nouveau, si jeune, si délicieusement frivole. Même ce cher Dumas pâlissait à côté.
Je vais vous le dire, attendez un instant. Je ne parle jamais en faisant ma torsade, c'est le moment critique.
Une épingle, deux épingles, trois épingles, et la torsade se trouva fixée, lisse et brillante, un peu de côté par coquetterie, puis un petit peigne d'écaille blonde, tout à jour, et qui ressemblait à l'aigrette d'un faisan, se planta crânement au sommet du léger édifice.
« Comme vous êtes adroite !» fit Zoé, qui ne parlait plus que par exclamation et qui en retenait encore la moitié.
« J'ai par bonheur des cheveux soufflés, ils sont très faciles à arranger. Je ne mets jamais à ma coiffure que 3 minutes et 3 épingles. Mais reprenons. J'allais vous dire que maman, me voyant criblée de rousseur et très malheureuse, me conseilla une cure de rosée. C'est naïf si l'on veut, mais cela vaut toutes les eaux des parfumeurs et cela coûte moins cher, ce qui est une considération. Entre nous, je crois que maman avait surtout pour objet de me rendre matinale. Donc, tous les matins, je descendais au jardin avec un mouchoir de batiste. Nous avons un jardin grand comme rien, mais la rosée, qui n'est pas fière, y tombe tout de même. Et j'épongeais les plantes, j'épongeais. Puis je m'en faisais des compresses. Vous voyez le résultat. » Tout en achevant sa phrase, Adrienne pensait à autre chose, car son regard se fixait indécis sur Zoé.
« Vous fâcheriez-vous, commença-t-elle avec quelque hésitation, si je vous disais que je n'aime pas beaucoup votre coiffure ?»
Zoé devint rouge, ses yeux se remplirent de larmes avant même qu'Adrienne eût fini de parler.
« Je sais que je suis très ridicule, s'écria-t-elle, je m'en doutais autrefois. Depuis que je vous vois, j'en suis sûre, mais ne me le dites pas, cela me ferait trop de chagrin. »
Adrienne se pencha, l'embrassa, puis lui donna une petite tape sur la joue, mais elle n'ajouta rien.
« Ainsi, vous trouvez ma coiffure, » reprit Zoé au bout d'un instant.
« Un peu trop, à la Louis-Philippe, » dit Adrienne en se mordant les lèvres pour ne pas rire, car la petite mine sérieuse de Zoé était trop absurde entre ses deux nattes rondes qui passaient devant ses oreilles.
« Ôtez-moi vos épingles, » fit-elle d'un ton résolu, « je vous coifferai. »
Le mystère s'accomplit. Zoé, les épaules couvertes d'une grande serviette blanche, coulait de temps en temps un regard timide vers le miroir et tremblait de la tête aux pieds, d'excitation, de crainte et de plaisir. Que dirait Flore ? Cette question ne surgit, formidable, qu'à la fin de l'opération, quand les nattes défaites eurent été métamorphosées en une torsade irréprochable. Plus de bandeaux, mais une masse de cheveux gonflés relevée sur le front.
« Tout à fait dans votre style, » dit Adrienne en reculant pour mieux voir son œuvre.
« C'est gentil et un peu sévère en même temps. « Maintenant, ma bonne petite, » poursuivit-elle en prenant les deux mains de Zoé, « il y a une chose que nous devrions faire, nous tutoyer.
« Je n'osais pas vous le demander, » murmura Zoé en cachant son visage sur l'épaule de cette délicieuse amie.
« Le dîner, le dîner !» criait Flore dans le passage aux voûtes résonnantes. C'était Flore qui était la cloche de la maison grise, une cloche qui ne cloche jamais, disait-elle, assez fière de ce jeu de mots. En descendant l'escalier, les deux jeunes filles qui se tenaient affectueusement par la taille rencontrèrent M. Clovis. Zoé courut à lui, elle aurait voulu lui sauter au cou, mais elle se contenta de lui prendre le bras en levant vers lui un visage rayonnant.
« Merci, cher bon cousin, je suis si contente. Nous sommes déjà liés, nous nous disons tu. Elle est si amusante, si spirituelle, et mon cousin Jules ne me fait pas peur du tout. »
Elle dit tout cela sans reprendre haleine, les yeux brillants, toute sa petite personne vibrant d'excitation. Décidément, pensa le bon cousin, c'était bien là ce qu'il lui fallait. Dans la baie de la grande porte d'entrée parut M. Romanel, familièrement appuyé sur le bras de Jules. Ils avaient passé tout ce temps à causer et ils étaient maintenant grands amis. Ayant décrété à l'avance que la nièce de Clovis serait une jeune écervelée et le neveu un jeune homme de tout point admirable, le vieillard avait éprouvé une certaine satisfaction à voir ses prévisions confirmées dès la première minute. La réserve et le silence de Jules, qui en d'autres circonstances l'auraient vivement offensé, lui avaient plu. Il s'était mis en frais pour adoucir l'impression de son brusque accueil. Il avait questionné le jeune homme sur ses études, ses projets. À son tour, Jules s'était enquis comme il convenait de la santé du vieillard, et M. Romanel était toujours de belle humeur quand il avait pu dire « Je me porte mieux que les jeunes, mieux que les jeunes ». De plus, Jules l'avait complimenté sur sa mémoire et avait écouté avec déférence deux ou trois anecdotes du temps passé. « Il y a aujourd'hui 26 ans, c'était en été, disait le vieillard en s'avançant de son pas faible et lent, mais en ayant soin de s'appuyer beaucoup plus sur sa canne que sur le bras de son jeune compagnon, un ouragan affreux nous arracha nos girouettes et dévasta tout ce coin de pays. Mais vous ne vous en souvenez pas. Comme je n'ai que 25 ans, il serait difficile que je m'en souvinsse. D'ailleurs, je n'ai pas la mémoire des dates que vous possédez à un degré si remarquable. » On ne l'a plus, on ne l'a plus. On met tout dans des carnets, dans des agendas. Je n'ai jamais eu d'autre agenda que celui-ci, dit-il en se frappant le front de l'index. Agenda indélébile, fit Jules poliment. Quoi ? Cria le vieillard. Puis il regretta d'avoir laissé voir qu'il avait l'oreille dure. Oui, oui, parfaitement, je comprends, se hâta-t-il d'ajouter. Le dîner se passa sans incident. Flore, quand elle entra portant la soupière, faillit la lâcher et poussa une exclamation en apercevant la petite tête de Zoé sans natte, sans raie et ses petites oreilles nacrées tout à l'air au lieu d'être chastement couvertes. Mais elle n'osa pas faire d'esclandre. Seulement, chaque fois qu'elle passait pour le service, derrière la chaise de Zoé, elle laissait tomber sur cet entrelac de cheveux compliqués et coupables un regard à pic que Zoé sentait et qui la faisait rougir jusque sur la nuque.